Jacques Guillet, et beaucoup de nos contemporains, même athées, admirent Jésus, mais rejettent l'Église. Est-ce que Jésus a vraiment voulu une Église pour lui succéder?
Il y a bien des raisons qui permettent de se demander si vraiment Jésus a voulu une Église pour lui succéder. Il est tout à fait vrai que dans toute son existence, on ne peut pas dire que ce soit l'objectif qui l'ait, au moins apparemment, véritablement occupé. À quoi s'occupe Jésus? Qui est-ce qui occupe Jésus? On n'a pas l'impression, à lire même les documents que nous avons sur Jésus, on n'a pas l'impression que cet été, son objectif et sa mission, je suis venu pour fonder une institution qui doit durer, et comment est-ce que je vais m'y prendre pour que cette institution marche et fonctionne et dure. Là, il est tout à fait vrai que là, ce qui occupait Jésus, c'est certainement pas d'abord l'Église. C'est ce qu'il nommait lui-même le royaume de Dieu. De ça, il est constamment question dans les évangiles. De l'Église, il est question, on peut dire, très rarement.
Est-ce que c'est ce qui justifie la fameuse parole attribuée à Loisy, Jésus annonçait le royaume, mais c'est l'Église qui est venue?
C'est une des raisons qui justifie cette parole. Il est tout à fait vrai que Jésus est occupé par une perspective et que la réalité historique ne paraît pas à l'historien et même au lecteur, on peut dire, naïf des évangiles, la réalité historique ne paraît pas avoir immédiatement correspondu à une attente qui était quelque chose de beaucoup plus, à la fois de beaucoup plus vaste et de beaucoup moins précis.
Est-ce que ça voudrait dire, comme justement le suggérait Loisy et certains de ses contemporains qu'on a appelés les modernistes, est-ce que ça voudrait dire que, en fait, donc, l'Église a été la fondation d'esprits sans doute remarquables, géniaux, comme Paul, Jean ou même Pierre, mais qui ont finalement détourné le projet de Jésus?
C'est-à-dire que je dirais justement que Jésus n'avait pas à proprement parler ce que nous pouvons appeler et nommer un projet. Jésus attendait, et du reste, si je me souviens bien, ce sont les mots propres de Loisy, Jésus attendait l'Église. On ne peut certainement pas dire que Jésus avait un projet et que les premiers fondateurs de l'Église aient modifié ce projet pour y substituer le leur. Ça, ce serait certainement pas faux. Ce qui est vrai, c'est que Jésus avait une perspective, il avait une attente, il vivait dans l'attente d'un événement, et lui-même, du reste, avait conscience que cet événement venait avec lui. Et alors, cet événement, eh bien, on peut dire que cet événement s'est précisé progressivement, à mesure que Jésus vivait et que son action même suscitait des réactions, et ces réactions ont fini par aboutir à sa mort. Et alors, ce que Jésus a vu, je crois, de plus en plus nettement à mesure qu'avançait son action, c'est que l'événement venait avec sa mort, mais en même temps, et que cet événement allait avoir un retentissement et un effet dans l'histoire du monde. Et cet effet et ce retentissement, Jésus ne le décrit pas, Jésus ne cherche pas à le fixer, mais en fait, c'est cet événement qui a donné naissance à l'Église.
Mais qu'est-ce qui fait vraiment Jésus? Enfin, vous me dites, il attendait...
Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Je crois qu'on peut dire tout de même qu'il fait quelque chose. Il prépare cet événement. Alors, il le prépare. Il le prépare à la fois en agissant ou en essayant d'agir sur les hommes qui l'entourent, sur le peuple qui l'entoure. Et c'est sa prédication, ce sont ses gestes. Et puis en même temps, je pense une préparation plus directe, en ce sens que, de très bonne heure, il a certainement groupé autour de lui des hommes, et ce sont ces hommes qui sont devenus ce qu'on peut appeler les fondateurs de l'Église.
Il groupe des hommes, mais pourquoi? Pour faire un parti, pour faire une association? Enfin, pourquoi regrouper des hommes?
Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous l'a pas dit. Ce qui fait en ce sens-là, on peut donner plusieurs interprétations à ce regroupement. Mais enfin, je pense que quand on le voit vivre et agir, moi, je dirais qu'il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est que Jésus attend un événement, mais il ne s'agit pas d'un événement personnel. Il s'agit d'un événement qui doit atteindre d'abord son peuple, le peuple d'Israël. Jésus, de ce point de vue-là, n'est pas tellement différent des prophètes. Les prophètes attendent des événements, ils attendent des événements qui vont tomber sur leur peuple, que ce soit des événements tragiques ou au contraire, que ce soit des événements glorieux et heureux. Ils attendent un événement pour leur peuple. Jésus attend un événement pour son peuple. Et, alors, sa façon de préparer cet événement est certainement de préparer à l'intérieur de son peuple un petit groupe, un petit noyau, qui doit être, au fond, le noyau qui doit être capable d'accueillir cet événement, de le faire leur et ensuite de réagir à cet événement. De ce point de vue-là, l'action antérieure de Jean-Baptiste est, je crois, assez significative, et Jésus s'est inséré dans cette action pour la déborder. Mais Jean-Baptiste lui aussi attend un événement. Il attend un événement, et cet événement, pour Jean-Baptiste, il est très imprécis, mais il y a une chose qui est tout de même précise, c'est que cet événement, c'est Dieu qui va venir, visiter son peuple, voir ce que son peuple est en train de faire, comment les choses se passent. Alors cet événement pour le peuple d'Israël, Jean-Baptiste, c'est un événement qui va surprendre, qui va atteindre le peuple. Alors il faut rassembler dans le peuple d'Israël des hommes capables d'accueillir cet événement, d'être à la hauteur de cet événement, parce que cet événement, il risque d'être redoutable. Alors Jésus, au fond, suivant les traces de Jean-Baptiste et dans la ligne de Jean-Baptiste, fait un peu la même chose. L'événement vient. Eh bien, l'événement vient, il faut s'y préparer. Et là, Jésus, je pense, va plus loin que Jean-Baptiste. Il faut s'y préparer et il faut, en même temps, on peut dire, entrer dedans. Parce que l'événement, c'est pas seulement ce qu'il était pour Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, l'événement, c'était quelque chose qui venait du ciel et qui allait tomber sur Israël. Pour Jésus, l'événement, c'est bien sûr un événement qui survient, une réalité qui survient. Mais cet événement, c'est lui aussi. L'événement vient en même temps que lui. Et lui, il est pas seulement le porte-parole, il est le premier de cet événement. Il est plus que l'avant-coureur. Il est la première intervention de cet événement. Alors, il faut faire entrer des hommes dans cet événement. Et c'est la première raison. Alors, la seconde raison, qui du reste est liée à la première, c'est que Jésus veut, alors, vis-à-vis du peuple, de l'ensemble du peuple, Jésus veut montrer que ce que c'est, on peut dire concrètement que cet événement, il est déjà en train d'atteindre des hommes, de les atteindre, de les transformer. Et ça, c'est ce que Jésus fait en groupant des hommes. Il montre que ces hommes, à son contact et autour de lui, ils font une expérience. Cette expérience, Jésus la leur fait faire. Et en ce sens-là, cette expérience, elle est un témoignage que Jésus, en somme, propose à son peuple.
Mais tout ce que vous me dites m'apparaît, je m'excuse de vous le dire comme ça, mais m'apparaît un peu vague, n'est-ce pas? Un événement, quelque chose, oui. Etc. En fait, quelle conscience Jésus avait-il de lui-même? Puisque vous me dites même qu'il n'y avait pas de projet au sens où on l'entend. Alors, ça m'apparaît à quelqu'un qui presque est porté par les événements beaucoup plus que quelqu'un qui est, comme on dit aujourd'hui, entreprenant, décisionnel, etc.
Bien, je dirais que il y a en Jésus, certainement, cette conscience d'être porté par un événement unique. Bon, justement, il a conscience d'être porté par un événement, mais parce que cet événement vient avec lui. Et en ce sens-là, Jésus a conscience d'être ce que le peuple juif nommait le Messie d'Israël. Et en ce sens-là,
alors lui,
c'est pas précis.
Il est conscient d'être le Messie.
Oh, je le crois.
Ce que Jean-Baptiste ne croyait pas lui être le Messie. Il désignait.
Pas du tout. Jean-Baptiste sait qu'il est justement. Alors, chez Jean-Baptiste, tout reste d'une certaine façon vague. C'est quand Jean-Baptiste voit apparaître le personnage de Jésus que Jean-Baptiste, à ce moment-là, réalise « Ah ben, celui que j'annonce, celui que j'attends, celui que mon peuple attend, mais le voilà !» Alors, cette conscience que Jean-Baptiste ne prend que devant Jésus et en le voyant venir, Jésus, là, alors, je crois que ça fait partie de sa conscience. Je crois que, alors, c'est vague en ce sens qu'évidemment, c'est un cas unique. Mais on peut peut-être tout de même mieux le réaliser par rapport aux prophètes. Tous les prophètes, les uns après les autres, ont eu conscience qu'ils avaient une mission. Une mission qui était, au fond, à la fois précise, en ce sens que, je dis ça très bien, que c'est eux personnellement qui avaient été choisis, et puis imprécise, en ce sens qu'elle dépendait aussi des événements qui se déroulaient autour d'eux. Jésus a une conscience, et je crois que ça fait partie vraiment de sa conscience, a conscience que l'événement, il dépend d'une certaine façon de lui, en ce sens que l'événement vient avec lui. Il est envoyé, pas seulement pour l'annoncer, il est envoyé pour le faire venir dans le monde. Je pense que Jean-Baptiste dit « J'annonce celui qui vient », Jésus dit, et il le dit au fond avec moi, « Que ton règne vienne, que ton règne vienne ». Alors, il l'attend, puisqu'il dit que ton règne vienne. Mais il n'empêche qu'il sait très bien que la venue de ce règne dépend de lui. Alors c'est assez précis.
Oui. Alors, Jean-Baptiste reconnaît en Jésus quelqu'un qui va réaliser quelque chose, qui va amener un événement.
Un événement.
Et c'est la même chose pour Pierre, c'est la même chose pour Jacques, pour Jean. Mais ceux-là, justement, Pierre, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de Jésus? Quelle foi ont-ils en Jésus?
Ben, d'après, si on prend le témoignage des évangiles, d'une certaine façon, Jean-Baptiste, du premier coup, lorsqu'il a vu Jésus, il a compris. Il a compris, ah, c'est celui-là qui vient sauver Israël.
Et qu'est-ce qui lui permettait de comprendre
ça? Ça, je crois que c'est l'illumination, disons, lumière prophétique.
Ah bon?
Je pense que...
C'est
là,
pas la chaîne.
Alors, on peut... évidemment, on peut avoir des analogies. On peut dire deux hommes peuvent, en se rencontrant, se comprendre.
Mais ça, comme dans Montaigne, ça. N'est-ce pas dans Puisque Montaigne, c'était,
ah oui,
moi,
puisque c'était moi, lui. C'était lui. On a des exemples de ça, n'est-ce pas quelquefois, des œuvres s'accomplissent parce que deux hommes, ou un homme et une femme, se sont rencontrés. Ils se disent, ça y est, nous sommes réellement... Enfin, voilà, il va se passer. Jean-Baptiste, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas la même chose, dans le sens que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, ne se dit pas, tiens, c'est avec lui que je vais faire quelque chose. Mais Jean-Baptiste, quand il rencontre Jésus, il dit, celui que j'espérais, celui que ma mission était d'annoncer, le voilà. Pour les disciples de Jésus, la situation est assez différente. Pour les disciples de Jésus, je crois qu'il est vrai, et ça aussi les témoignages le disent, que les tout premiers disciples, probablement Pierre et André, peut-être bien Jean, les tout premiers disciples de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui leur a communiqué sa certitude. Mais enfin... ce ne sont que des disciples. Ils ont suivi Jésus, on peut dire, sur la foi de Jean-Baptiste. Et puis, là, progressivement, ils ont bien perçu qu'il se passait quelque chose, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose en eux, et je crois que d'après le témoignage des évangiles, je pense que c'est la lecture la plus simple des évangiles, est venu un moment où les disciples ont... vraiment persuadé, ben oui, c'est bien lui, que, c'est bien lui qu'Israël attend. Et cet événement, il est raconté dans les évangiles par ce que nous appelons la confession de Pierre à Césarée de Philippe. À ce moment-là, c'est Jésus qui a posé la question, parce que de fait, si Jésus n'avait pas posé la question, est-ce que eux-mêmes, d'eux-mêmes, les disciples auraient été capables de le dire? Mais Jésus a posé la question, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent? Oh, les gens, ils disent toutes sortes de choses, tu es un type extraordinaire, tu viens de Dieu. Oui, mais enfin, pour vous, qui suis-je? Alors là, Pierre a répondu, toi, tu es le Christ. C'est-à-dire, tu es tout de même celui que nous attendons et qu'attend Israël. Alors, tu ne fais pas des choses extraordinaires, tu en fais, mais surtout, tu fais des choses extraordinaires et en même temps, on ne sait pas très bien où tu vas. Parce que tu multiplies les pains et puis après ça, tu renvoies la foule et tu n'utilises pas le succès que tu pourrais avoir. Alors, on se demande, et il y a bien des raisons de se demander ce que tu veux faire. Mais enfin, malgré tout, tel que tu es, tel que nous te connaissons, nous disons, tu es le Christ.
Mais justement, vous venez d'évoquer un des problèmes, n'est-ce pas, que l'esprit contemporain, athée particulièrement, se pose. Enfin, tous ces miracles, tout ça, ça veut rien dire, n'est-ce pas, parce que c'est impossible qu'avec quelques pains, on en fasse 5000, que l'on marche sur les flots, que l'on ressuscite les morts,
oui,
etc. Ça pose des problèmes, ça.
Oh, bien sûr que ça pose des problèmes. Je dirais, le problème, s'il n'y avait que le problème du miracle, du phénomène extraordinaire, alors là c'est tout à fait vrai. Qu'il se passe des choses extraordinaires, d'une certaine façon, ça ne prouve rien. Ça peut prouver que nous ne sommes pas maîtres de toutes les forces qu'il y a dans l'univers, qu'il se passe des choses qui sont encore inexpliquées. Aujourd'hui, nous savons que tout de même, nous avons déjà tout de même appris à expliquer beaucoup de choses dans l'univers, ce qui fait qu'on peut être tenté de penser qu'il y a encore une marge, mais enfin que pratiquement, on finira bien par tout expliquer. Du temps de Jésus, c'est tout à fait vrai, que les hommes n'avaient pas encore fait l'expérience du pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, et par conséquent, ça ne les étonnait pas tellement qu'il y ait des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi, c'est vrai, c'est tout à fait vrai que le miracle, le phénomène extraordinaire par lui-même, il ne prouve pas grand-chose, ou il peut prouver tout ce qu'on veut. Mais ce qui est tout de même assez remarquable, c'est que, il est vrai, je pense que Jésus fait des signes, et je crois que, au fond, tous les historiens, quelle que soit leur tendance et quelle que soit leur foi ou leur incroyance, admettent facilement, peut-être pas que Jésus a fait tous les signes que racontent les évangélistes, mais qu'il en ait fait un certain nombre, ça ne leur paraît pas du tout invraisemblable. Mais ce qui caractérise justement les signes que Jésus fait, ces miracles que Jésus fait, c'est que il en fait, au fond, et il en fait, et ça n'a pas une telle importance dans son existence. Je crois qu'il en fait surtout parce qu'il se trouve dans des situations, il est aux prises avec la misère, la maladie, il réagit, il guérit. Bon. Et puis, étant donné son pouvoir, ce que devrait faire normalement un thaumaturge comme lui, bon, c'est de développer son pouvoir, c'est d'utiliser son pouvoir. Or, ce qu'il y a tout de même de frappant, c'est que Jésus, qui a du pouvoir, qui a un pouvoir, on a l'impression qu'il hésite, je dirais même qu'il répugne à l'utiliser. Qu'il ne le fait que quand vraiment on vient l'assiéger. Alors à ce moment-là, il l'utilise. Mais sans ça, on ne peut pas dire que Jésus vienne dans le monde pour attirer l'attention sur tous les signes qu'il fait.
Jésus ne fait pas profession d'être thaumaturge.
Ah non. Je crois
pas du tout.
Non, ça, je crois vraiment. Ouais.
Mais alors, quand Pierre dit « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu », qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
Ah ben, je crois justement, c'est là que l'analyse littéraire des évangiles oblige tout de même à préciser et en même temps nous éclaire. Il est tout à fait, je dirais, compréhensible que Pierre, juif croyant, devant le personnage de Jésus, disent un jour, tu es le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie, au fond, enfin, Pierre, je ne dis pas qu'il sait ce que c'est, personne ne sait ce que c'est avant de l'avoir vu, mais enfin, tout de même, Pierre l'attend. Ça fait tout de même partie de son espérance, ça fait partie de son horizon, le Messie. Alors, Il est vrai qu'il y a un évangile, et c'est l'évangile de Marc, il y a un évangile qui précisément fait dire à Pierre, tu es le Messie. Alors, un autre évangile, l'évangile de Matthieu va plus loin. Un autre évangile fait dire à Pierre, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Mais on a bien l'impression que, de fait, la phrase de Matthieu, la confession de Pierre à Jésus, tu es le Fils de Dieu, il n'est pas tellement sûr que Pierre l'ait formulée telle quelle au moment où il l'a formulée. Au moment où Pierre a prononcé cette confession, il a simplement dit, tu es le Messie, ce qui allait déjà extrêmement loin. Ça voulait dire, tout ce que Dieu nous a promis, c'est toi qui le réalises. Et tout ça se réalise
Dieu,
avec toi.
Tout ce que Dieu a promis au peuple juif.
Au peuple juif. Alors, c'est toi qui le réalises. Ouais. Alors, fils de Dieu, c'est une autre expérience. C'est l'expérience de ce qui était, si on peut dire, l'intérieur de Jésus, de ce qui animait Jésus, de ce qui faisait vivre Jésus. Alors, fils de Dieu, au fond, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a vraiment que l'expérience de la passion et de la résurrection qui a fait comprendre aux disciples que la relation de Jésus avec Dieu n'était pas simplement celle d'un envoyé extraordinaire, mais que c'était vraiment une relation personnelle et qui constituait son cœur même, la relation avec Dieu.
Mais est-ce que Jésus lui-même avait conscience d'être fils de Dieu, d'être Dieu lui-même?
Je crois qu'il va vous poser une question simple. Je crois qu'il faut répondre simplement oui. Mais ayant dit ça, il faut tout de même la nuancer. Conscience d'être Dieu, c'est pas comme ça que Jésus parle. Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Jésus n'a jamais parlé de lui que dans sa relation avec un autre qu'il appelle Dieu ou qu'il appelle mon Père. Mais c'est ce type de relation qui est une relation de parfaite compréhension, de totale disponibilité et de totale assurance. C'est cette relation que, et là je crois que lui-même l'a dit, peut-être pas très très souvent, mais tout de même l'a dit, il y a le Père et le Fils, et je suis le Fils. J'ai avec lui une relation qui a quelque chose d'unique. Je crois que là, cette relation, Jésus l'a formulée explicitement. Ce qu'on peut se demander, c'est comment Jésus a-t-il acquis cette certitude et cette conscience d'être le Fils ? Là, il est très difficile de vouloir pénétrer tout de même une personnalité qui a un secret, et un secret qui nous dépasse. Mais on peut tout de même penser que cette conscience que Jésus a d'être le Fils, elle a pu, je dirais, prendre forme en lui, prendre son expression de façon progressive, à 10 ans, à 8 ans, à 2 ans, Jésus très probablement était bien incapable de dire et de dire « je suis le Fils » parce que c'est une question qui ne se posait pas à lui, il l'était. Un enfant qui vient au monde, même un enfant qui commence à vivre dans le monde et dans sa famille, il n'a pas besoin de se demander qui il est et de se demander s'il est le fils de tel ou une telle. Il est leur enfant, puis ça lui suffit. Je dirais que pour Jésus, il me semble que la première conscience qu'il a eue est une conscience aussi, on pourrait dire aussi élémentaire, et que c'est quand sa mission est devenue en lui quelque chose qui devait prendre forme et qui devait prendre une expression dont il fallait qu'il parle. À partir du moment où, de fait, il a à dire ce qu'est sa mission, il a aussi à dire qui il est. Alors à partir de ce moment-là, il peut dire, oui, je suis, celui que je suis, c'est le Fils.
Père Guillaume, on peut comprendre que les Juifs aient attendu un Messie, on peut comprendre aussi qu'ils aient vu en lui quelqu'un qui avait une relation particulière avec Dieu.
Oui.
Mais tout ça, quel sens ça peut encore avoir pour des hommes du XXe siècle qui ne sont ni Juifs, qui n'attendent pas le Messie, qui ne sont même pas des Occidentaux, qui sont des Chinois ou des Indiens ou des Japonais? Quel sens tout cela peut-il encore avoir aujourd'hui?
Alors, si vous permettez, je vous répondrai de façon peut-être indirecte, mais je pense qu'il faut commencer par là. Il y a une première question. Comment se fait-il que ce qui pouvait avoir un sens pour les Juifs, pour Israël, les disciples de Jésus se soient crus obligés d'aller l'annoncer aux autres, à d'autres? Si le Messie est le Messie d'Israël, Jésus est le Messie d'Israël, c'est une bonne nouvelle pour Israël, et il faut aller le dire à Israël, mais pour le monde, pour les autres, en quoi ce personnage est-il intéressant pour les autres? Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier que le peuple juif, et c'est encore vrai aujourd'hui, le peuple juif, ça fait partie de sa foi et de son espérance. Le peuple juif, s'il se met à part, s'il a conscience d'une élection, c'est-à-dire tout de même d'une action de Dieu particulière et d'une certaine façon privilégiée sur lui, le peuple juif ne peut oublier que son élection et son destin sont inséparables du destin de l'humanité tout entière. Ça fait partie de l'espérance juive. Le choix d'Abraham, l'appel d'Abraham dans les Écritures juives et donc dans la foi juive, c'est « Je te choisis, je ferai grand ton nom et tu seras une bénédiction et une espérance pour tous les peuples et toutes les nations. » Et ce qui arrive à Israël, ça intéresse toutes les nations. Ça, c'est une conviction qui fait partie de la foi d'Israël. Ils ont une vocation qui intéresse toutes les nations. Alors, sous quelle forme? Là-dessus, précisément, il peut y avoir des formulations de cette conviction très différentes, suivant les tendances, suivant aussi les événements, suivant que Israël se trouve ramassé sur lui, ou au contraire, suivant qu'Israël se trouve dispersé, suivant qu'Israël se trouve dans une situation de persécution, ou au contraire, suivant qu'Israël se trouve dans une situation d'expansion et d'une certaine façon de sympathie vis-à-vis des autres peuples. Alors, il y a tout de même cette conviction qui habite Israël. Israël ne peut pas séparer son destin de celui du monde entier. Puis alors, à cela vient s'ajouter, alors là, je dirais que tous les Juifs, et encore aujourd'hui, les Juifs les plus fidèles à leur élection, sont aussi convaincus que de leur fidélité dépend aussi le destin du monde. Et à ça vient s'ajouter alors une expérience qui est le propre des disciples de Jésus et de ceux qui ont adhéré à cette expérience des disciples, c'est que Jésus avait apporté dans le monde une réalité tellement unique et tellement fondamentale qu'elle intéresse directement le monde entier. Et ça, c'est la résurrection. La résurrection est à la fois un signe donné à Israël, et même à Israël qui a rejeté Jésus. Israël, enfin, les responsables de Jérusalem qui rejettent Jésus, ils le rejettent, mais voilà que 3 jours après,